الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد في هذه الليلة ليلة السادس من شهر ربيع الأول من عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نفتتح درسا جديدا في شرح رسالة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المعنونة بفضل الإسلام. En cette journée du 2 novembre 2019, nous sommes réunis pour entamer l'étude d'un nouvel écrit, ô combien bénéfique, dont l'auteur n'est autre que le Cheikh Mohammed, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Je ne pense pas que nous sommes dans le besoin de le présenter, vu que ce n'est pas la première fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre cette faveur d'étudier ce genre d'écrit de cet auteur. Quant au livre que nous allons étudier, il est intitulé « Fadlul Islam », le mérite de l'islam. L'on pourrait aussi dire les mérites de l'islam. Il n'y a pas de mal dans cela. Cet écrit est grandement bénéfique et il a été nommé ainsi par l'auteur, rahimahullahu ta'ala, Fadlul Islam, le ou les mérites de l'islam, en raison du premier chapitre qui est intitulé justement Bab Fadlul Islam. Premier chapitre, le mérite de l'islam. Sinon, le livre en lui-même contient des sujets grandement importants qui relèvent des fondements de la religion d'Allah, de l'islam, subhanahu wa ta'ala. Et ce sont des choses que tout croyant se doit de connaître. Al-Muwahhid, le monothéiste, celui qui n'adore qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, doit connaître sa religion. Il doit en connaître la grandeur. Et vous allez voir que l'auteur, rahimahullah, a fait en sorte de mettre en premier chapitre le chapitre en relation avec les mérites de l'islam, car c'est en connaissant les mérites d'une chose que notre envie de la connaître, de l'appliquer, de la suivre, grandit en nous. Le musulman doit connaître la grandeur de la religion à laquelle il s'affilie, l'islam, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il doit aussi en connaître la définition, les règles et les objectifs. Surtout dans cette époque que nous vivons, où tout est fait pour donner à l'islam une image qui n'est pas la sienne. Par les détracteurs de cette religion, tant bien les détracteurs venant de l'extérieur, j'entends par là des gens qui ne sont pas de cette religion, ou les détracteurs de l'intérieur, que sont les gens de l'innovation, qui font tout pour la falsifier et lui donner la compréhension que eux se sont donnés de cette religion, qui pourtant est une compréhension erronée et malsaine. Il incombe donc aux croyants et aux musulmans de comprendre ce qu'est cette religion de l'islam, et de savoir quelles sont les sources en islam et quel est le mérite, l'importance de cette religion. C'est tout cela, incha'Allah ta'ala, qui va être traité à travers l'étude de cet écrit, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. L'on voit dans cet écrit plusieurs choses, notamment des fondements relatifs à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On y apprend l'obligation de s'éloigner de toute forme d'innovation. On y apprend également la grandeur des gens de la sunna qui appliquent l'islam correct, l'islam saint, l'islam originel. Tout comme on y voit la gravité des gens de l'égarement et de l'innovation qui innovent dans la religion et ne suivent pas ses fondements, ni ne les applique. Il y a le mérite de l'islam, il y a l'explication de l'islam, l'explication des innovations, au point où on nous montre dans cet écrit que les innovations sont bien plus graves que les péchés majeurs. Les péchés majeurs, à l'exemple desquels, le meurtre, ou encore le mensonge, la trahison, la consommation de l'intérêt, la fornication, la consommation des produits enivrants, et bien d'autres choses encore. L'innovation est plus grave que les péchés majeurs. Quand on dit Fadlul Islam, comme le dit le titre de l'écrit et le titre du premier chapitre, Fadlul Islam, le mérite de l'islam, ce qui est voulu à la base par le mot Al-Fadl, Al-Fadlu ma yadullu ala al-ziyada. Al-Fadl, le mot Al-Fadl indique l'ajout, ou alors la notion du plus. Dans le sens où dans l'islam, il y a quelque chose de plus par rapport aux autres religions qui ne sont pas la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme on dirait, fadlul ma, le plus qui reste de l'eau, le surplus restant de l'eau que l'on a utilisée, on l'appellera en arabe fadlul ma, le plus ou le surplus de l'eau. Mais quand on utilise ce terme pour dire fadlul islam, ce que l'on veut dire par là, ma yatamayyazu bihi al-islamu an ghayrihi, ce par quoi l'islam se distingue des autres religions. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres religions? C'est ça qui est voulu par fadlu al-islam. Également, quand on dit fadlu al-islam, le mérite de l'islam, mais en arabe fadl, qui, comme je l'ai dit tantôt, revient à dire qu'il y a quelque chose de plus. L'islam a quelque chose de plus par rapport aux autres religions. Et l'islam a aussi un fadl, un mérite, ala ahlihi, pour les gens qui adhèrent à cet islam. Il y a un mérite que l'islam a par rapport aux autres religions. Et deuxièmement, le mérite de l'islam sur les gens de l'islam, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Les suiveurs de l'islam, al-muttabi'un al-islam, ils ont un mérite qu'ils reçoivent d'Allah tabaraka wa ta'ala par rapport aux adeptes d'autres religions. De même, les adeptes de l'islam authentique, originel, l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont un mérite par rapport aux adeptes de l'islam, mais qui l'ont falsifié et qui ont innové dans l'islam. Donc tout cela va être, incha'Allah ta'ala, traité dans cet ouvrage. Et les gens de l'islam qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont un mérite par rapport aux autres gens qui s'affilient à l'islam et qui ne suivent pas la sunna, car ils sont dans le juste milieu entre ces deux extrêmes que sont al-ghulou ou al-jafa, l'exagération ou le délaissement. C'est deux choses que l'on a pu étudier grâce à Allah dans le livre intitulé Fada'il al-Qur'an, les mérites du Coran. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a écrit cet ouvrage en suivant la méthodologie des savants du hadith, qui se contentent de classifier les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont recueillis sous forme de chapitre portant un nom sous lequel va être cité un nombre de versets et de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la manière suivie dans cet ouvrage et bien d'autres encore de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullahu ta'ala, contrairement à ce que disent ses détracteurs, qu'il l'accuse de parler en disant des choses venant de lui et n'ayant pas de source dans le Coran et la Sunna. Vous n'avez qu'à lire ce genre d'écrit pour vous rendre compte de la caducité de cette parole et qu'elle est fausse. D'ailleurs, il fut un temps, chers frères, où en Inde, il y avait un savant qui avait entendu des choses mauvaises, des calomnies à l'encontre de Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, au point de le détester sans le connaître, ni vérifier la véracité des dires rapportés le concernant. Ce savant, pensant que Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, était un homme mauvais, invoquait Allah tabaraka wa ta'ala contre lui au début de chacune de ses assises, avant de commencer son dars. Puis, un jour, un homme ayant rendu visite à ce savant en Inde, a décidé de prendre le livre intitulé Kitab al-Tawhid, le livre du monothéisme, écrit par Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, et d'arracher la couverture de ce livre sur laquelle était inscrit le nom de l'auteur, et de lui laisser à ce savant indien. Le temps de le feuilleter, de le consulter et de voir son contenu. Puis quand il est revenu, il a trouvé le savant indien épaté par ce livre et qu'il l'avait apprécié. « Qu'en dis-tu ?» lui a dit le visiteur. Le savant lui a dit « Ce livre-là me fait rappeler le livre de l'imam al-Bukhari. » Dans le sens où il est très bien classifié, il contient des textes du Coran et de la Sunna. Et lui a dit, sais-tu qui en est l'auteur? Il lui répondit non. Il lui donna alors la couverture qu'il avait enlevée de ce livre. Puis il lit Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Il lui a dit, voilà qui est cet homme contre lequel tu invoques Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il s'est aperçu de la tromperie dont il a été victime suite aux rumeurs qui lui sont parvenues concernant l'imam, rahimahullah, il a demandé le pardon à Allah Azza wa Jal et il a fini sa vie en invoquant Allah pour Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, au début de chacune de ses assises. Allahu Akbar. Rahimallahu hadha al-imam. Qu'Allah fasse miséricorde à cet imam. Ainsi, l'on commence l'étude de cet écrit, inshallah ta'ala. Et je m'aide du commentaire du Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah. Il y a plein de commentaires qui sont écrits. Et pour les arabophones, je leur recommande vivement de lire cet écrit du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Je ne citerai pas tout ce que va dire le Cheikh. Le but n'est pas de s'étaler. Mais le but est de vous donner une approche qui vous fasse comprendre, inshallah, le but de l'ouvrage, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ainsi, l'auteur a débuté son premier chapitre en disant Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, babu fadlil islam. Après avoir cité le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme à son habitude et à l'habitude des auteurs parmi les gens de science, et avoir demandé l'aide d'Allah, il dit chapitre, c'est-à-dire le premier chapitre, fadlil islam. Le mérite de l'islam. Et vous avez compris ce qui est voulu par le terme fadl ou fadl al-islam. L'auteur rahimahullah a dit wa qawlillahi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Le premier verset cité par l'auteur est celui de la sourate al-Ma'ida où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après le sens rapproché du verset: aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, parachevé sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre de plusieurs façons le mérite de cette religion qu'est l'islam. Mais sachez tout d'abord que ce verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'accomplissement du pèlerinage appelé Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu. Il a été appelé ainsi car c'est après ce Hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir. C'est le seul et unique Hajj qu'il a eu l'occasion d'accomplir et peu de temps après il décéda sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset a été révélé par Allah Azza wa Jal pendant ce Hajj, particulièrement le jour de Arafah, un moment crucial pour le pèlerin et pour le pèlerinage, où les gens se réunissent et écoutent l'exhortation et le rappel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, un moment où les anges descendent et Allah les prend à témoin qu'il pardonne à tous les gens présents dans cet endroit pendant l'accomplissement du pèlerinage. Et en plus de cela, ce jour a concordé avec un vendredi, le meilleur jour de la semaine, dans le meilleur jour de l'année, dans le meilleur moment, dans la meilleure action que l'on puisse faire à ce moment-là, qui est le pèlerinage. Allah a choisi tous ces moments-là pour révéler ce noble verset, après lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va vivre que 81 nuits, très exactement, comme l'a dit l'imminent savant Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti, rahimahullahu ta'ala. 81 nuits, c'est-à-dire à peu près 2 mois et demi. Toutes ces circonstances ont été choisies par Allah subhanahu wa ta'ala pour la révélation de ce verset, afin de montrer la grandeur de sa religion et le fait qu'elle est complète et parachevée. Elle n'accepte donc aucune diminution, ni ajout, ni aucun changement, puisqu'elle vient d'Allah, celui qui est parfait par ses noms et ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal nous montre dans ce verset le mérite de l'islam de 3 points de vue. Le premier, quand il dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » « Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. » Ça, c'est un mérite de l'islam. Le fait que l'islam soit complet, il a été complété par Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. Déjà, le fait qu'une chose soit complète est un bien. Et le fait que celui qui l'est complété soit Allah, azza wa jal, fait grandir davantage ce bien. Et ça, c'est un mérite de l'islam. La deuxième chose, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Et j'ai parachevé sur vous mon bienfait. L'islam est donc le bienfait d'Allah, azza wa jal. Plus encore, l'islam est le plus grand des bienfaits d'Allah. Tu ne trouveras pas un bienfait meilleur que celui d'avoir été guidé à l'islam, à la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car l'islam est la voie menant à l'agrément d'Allah et à son paradis. Troisièmement, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا Et j'agrée pour vous l'islam comme religion, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le dit le Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, ne décéda qu'après avoir reçu la révélation de ce verset marquant le caractère complet de l'islam. Ce verset est donc une réponse claire, sans ambiguïté, à ceux qui innovent dans la religion d'Allah et inventent des choses nouvelles en pensant qu'elles font partie du bien, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit de cet islam qu'il est complet. Complet veut dire qu'il n'acceptera aucune diminution, aucun changement et aucun ajout. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce que nous rapporte Aïcha radiyallahu anha, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Quiconque innove dans notre ordre qui est celui-ci, l'islam. Quiconque innove dans notre ordre qui est celui-ci, c'est-à-dire dans l'islam, ce qui n'en fait pas partie, il se verra rejeté. فهو رد. C'est-à-dire, mardoudun ala sahibi. Il sera rejeté sur son auteur, non accepté d'Allah, tabaraka wa ta'ala. J'ai entendu, dans un audio, l'éminent savant, le Sheikh Omar Fallata, rahimahullah. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un grand savant de la sunna et c'est un professeur de certains des grands savants contemporains qui sont encore vivants. Et il est originaire du Mali, rahimahullah, et a vécu à Médine où il est décédé. Dans l'explication d'un hadith, dans l'explication de ce terme, il a ajouté une parole évoquée par certains savants qui ont dit « فَهُوَ رَدْ أي فَهُوَ رَدٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ Allahu Akbar. Il a dit, certains savants pardon, ont dit, c'est-à-dire que celui qui innove dans la religion d'Allah, c'est comme s'il avait refusé ce qu'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, où il a rejeté ce qui est venu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah, dit, c'est une réfutation, une réponse à ceux qui diminue la valeur de cette religion qu'est l'islam en la dénigrant, en disant tantôt qu'elle n'est plus correcte, elle ne correspond plus à cette époque ou à tel et tel endroit. Ils disent que l'islam correspond à des générations passées, à des nations passées. Et cette époque qui est la nôtre, nous devons adapter l'islam à cette époque. C'est faux. L'islam, c'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'islam est révélé par Allah, le créateur des cieux et de la terre. Celui qui nous a tous créés. Il a la perfection dans les noms et attributs, parmi lesquels la science, la sagesse. Il connaît tout. Chaque chose qu'il décide, il le fait pour une raison bien précise. Tantôt nous connaissons la sagesse, tantôt nous ne la connaissons pas. Mais dire que cet islam venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons besoin de l'adapter à un endroit ou à une époque, revient à dire qu'Allah n'a pas été sage quand il a révélé cet islam et quand il a dit que cet islam est complet. Wal'iyadu billah. Et le fait que ces propos soient tenus par ceux qui sont des détracteurs de l'islam, n'est pas étonnant en soi. C'est évident. Mais l'étonnement ne cesse de grandir lorsque l'on voit que ces propos sont tenus par des gens qui adhèrent à l'islam, en tout cas en apparence, ou qui s'affilient à l'islam. Et ce sont les mêmes personnes qui vont dire que l'islam doit être adapté à une époque ou à un endroit. Pourquoi est-ce qu'ils tiennent ces propos ? Pour chercher à plaire à autrui. Parfois, pour atteindre des biens mondains, pour gagner une renommée, pour être aimé de telle ou telle personne. Et où est Allah dans tout cela? Subhanahu wa ta'ala. Où est Allah le créateur du paradis et de l'enfer? Où est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous jugera le jour dernier? Parmi les gens, certains vendent leur religion pour la vie d'ici-bas auquel ils sont tant attachés. L'islam est une religion de juste milieu. Et ces gens, pour chercher à plaire à autrui, veulent déformer les fondements de cette religion. Ils disent, il y a tellement d'égarés, tellement de terroristes, tellement d'actions mauvaises qui sont commises, que nous devons adapter les textes au contexte. Mais il est vrai qu'il y a des gens qui agissent de la mauvaise façon et que nous sommes loin de ces gens-là, tant bien dans la croyance que dans le comportement, et que ces gens sont égarés et mauvais. Nous ne cessons de mettre en garde contre eux, que ce soit les Khawarij qui commettent des attentats, tuent et assassinent des victimes qui sont innocentes, peu importe leur confession. Nous ne sommes pas d'accord avec ces gens-là. Mais cela veut-il dire que pour autant nous pouvons tenir de tels propos concernant notre religion? C'est faux. Notre pratique peut déplaire à autrui, ce qui est compréhensible, mais en aucun cas elle n'est dangereuse pour quiconque parmi les gens. Pourquoi? Parce que c'est la pratique de la religion d'Allah, Azza wa Jal, le créateur des gens, celui qui leur a envoyé les prophètes, les messagers, et révélé l'ensemble des livres. Ainsi, cette parole est fausse, car Allah Azza wa Jalla a dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum ». Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Cette religion, à partir de la révélation de ce verset, jusqu'au moment où Allah le décidera à la fin des temps, est valable, correcte et ne cessera de l'être pour toute époque et pour tout endroit. Mais le problème vient de l'incompréhension des gens de cette religion, non pas de cette religion. Comme va le dire le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, lorsqu'il dit « Yadullu ala annahu salihun li kulli zamanin wa makan » Ce verset prouve que l'islam est correct et correspond à toute époque et tout endroit. « Wa idha qasurat afhamu ba'di nasi an fahmi l'islam » Et si la compréhension de certaines personnes de l'islam est restreinte ou faible, le défaut ne vient pas de l'islam. Le défaut ne vient que de la compréhension qu'ils ont de l'islam. Wa illa faddinu kamilun shamil lima salih al-ibadi ila an taqum as-sa'a. Sinon la religion est complète et elle englobe tous les intérêts des serviteurs jusqu'à l'arrivée de l'heure. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai complété pour vous, parachevé pour vous mon bienfait. Ce bienfait, c'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa raditu lakum al-islam dina. Et j'agrée pour vous l'islam comme religion. C'est donc la religion agréée et acceptée d'Allah, azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam » Certes, la religion chez Allah est l'Islam. Le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah a dit que les religions autres que celles par laquelle fut envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont chez Allah caduques. Elles ne sont pas acceptées chez Allah. Comme on le voit clairement dans ce verset, et plus encore dans celui qui va suivre. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Et quiconque recherche une religion autre que l'islam, elle ne lui sera pas acceptée, et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Il sera du nombre des perdants qui n'ont pas su réussir cette énorme épreuve d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, dans ces deux versets, nous voyons très clairement que la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est la religion de l'islam. C'est celle avec laquelle tous les prophètes ont été envoyés et tous les livres révélés. On ne peut donc pas dire qu'il y a plusieurs religions appelées les trois religions de monothéisme. On ne peut non plus pas dire de toutes ces religions, quelles sont les religions al-adiyan al-ibrahimiyya, les religions abrahamiques, les religions qui arrivent du prophète Ibrahim, alayhi salam, Abraham. Tout ceci est faux, et ça a été réfuté par Allah tabaraka wa ta'ala, et on aura l'occasion de lire le verset du Coran qui prouve ce que l'on vient de dire, insha'Allahu ta'ala. Et de dire que toutes ces religions amènent à Allah, mais c'est simplement la manière de cheminer vers Allah qui diffère et varie d'une religion à une autre. Et dès lors que notre intention est arrivée à Dieu, comme il est dit, à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est bon. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que ce Dieu dont vous parlez, que nous appelons Allah, tabaraka wa ta'ala, il est unique. Et quand on dit qu'il est unique, cela implique qu'il attend de nous une chose unique, une voie unique à suivre. Il est le seul à nous juger, le seul qui prescrit, le seul, subhanahu wa ta'ala, qui le jour du jugement, on devra tous lui rendre des comptes. Il n'attend de nous, qu'un seul chemin. Ce chemin, on l'appelle l'islam. L'islam, c'est la soumission à Allah, la soumission au Créateur, subhanahu wa ta'ala. La seule religion menant à Allah, azza wa jal, c'est la religion de l'islam. Quiconque s'y cramponne gagnera le paradis. Quiconque s'en détache et détourne n'aura d'autre destination que le feu le jour du jugement dernier. C'est la conviction islamique. Elle peut déplaire, tout comme une autre conviction peut déplaire aussi. Mais ça n'engendre pas, comme on essaie de le dire, d'injustices physiques qui seront faites à autrui. C'est faux. Que cela soit bien clair. La religion de notre prophète Moussa, alayhi salam, fut l'islam. La religion du prophète Isa, alayhi salam, fut aussi l'islam. Jésus et Moïse, ils ont reçu un livre qui a été révélé par Allah tabaraka wa ta'ala et qui contient l'ordre d'adorer Allah seul et sans aucun associé. Cependant, ces religions ont été falsifiées par ses adeptes qui ont trahi le dépôt qui leur a été confié par Allah subhanahu wa ta'ala. Et au final, Allah azza wa jal a révélé le Coran par lequel il a abrogé les livres précédés avant qui ont été falsifiés. Les livres qui ont été falsifiés contiennent désormais une partie de vrai et une autre partie de faux. Il nous est impossible aujourd'hui de certifier de quelle partie s'agit-il quand on parle du vrai et de même pour le faux. Seulement, nous savons avec conviction que le Coran va confirmer la partie de vrai contenue dans ces livres et infirmer, réfuter la partie de faux contenue dans ces livres. Pour cette raison, le Coran nous est amplement suffisant. Nous ne lisons pas les autres livres. C'est pourquoi, quand Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lisait des feuillets de livres anciens, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'ayant aperçu, lui a demandé, « Que fais-tu ?» Et il lui dit, « Law kana Moussa hayyan, si Moussa était vivant, lama wasi'ahu illa tiba'i, il n'aurait pu que me suivre. » Il aurait abandonné ses écrits que tu lis pour s'adonner à la lecture du Coran, qui a abrogé cet écrit que tu as entre tes mains. Allah tabaraka wa ta'ala n'a donc laissé que l'islam, qui est bon et correspond à toute époque et endroit. Allah azza wa jal a éprouvé ces gens, qui faisaient partie des gens du livre, qui prétendaient aimer Allah. Il a révélé le verset qui a été surnommé plus tard par les savants Ayatul Imtihan ou Ayatul Mihna, le verset de l'épreuve. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. Dis, obéissez à Allah et aux messagers. فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Et si ils se détournent, alors certes, Allah n'aime pas les mécréants. Subhanahu wa ta'ala. Le deuxième verset cité par l'auteur, وَقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. Sourate Yunus. Dans le sens rapproché du verset. Dis. Lorsque vous voyez dans le Coran, قُلْ, qui veut dire dis, il s'agit de l'ordre qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ces gens à qui il s'adresse et à qui il transmet le message d'Allah. قُلْ, dis. Ô vous les gens, si vous doutez de ma religion, alors moi, je n'adore pas ce que vous adorez en dehors d'Allah, mais c'est Allah que j'adore. celui qui vous fera mourir. Celui qui vous fera mourir. Où est-ce qu'on voit le mérite de l'islam dans ce verset? Dans ce verset, nous voyons le mérite de l'islam par rapport aux autres religions, tout comme nous voyons le mérite de l'islam sur les gens de l'islam. Le mérite de l'islam par rapport aux autres religions. Le fait qu'Allah Azza wa Jal dise « In kuntum fi shakkin min dini » si vous doutez de ma religion. Quelle est ma religion? L'islam. Avec sa parole, Azza wa Jal, « Walakin a'budullah » mais j'adore Allah. Ce qui veut dire que parmi les mérites de ma religion, le mérite de l'islam, c'est que celui qui est adoré dans cette religion, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un mérite immense de cette religion. Car dans les autres religions, celui qui est adoré ou ceux qui sont adorés sont des divinités diverses et variées. Des fois, l'on adore un animal. Des fois, il s'agit d'un objet inerte, une pierre, un arbre. Des fois, on adore un homme, Isa alayhi salam, Jésus. On va même jusqu'à dire qu'il est le Fils de Dieu, ou qu'il est Dieu lui-même, ou qu'il est trois, ou peu importe, beaucoup de choses sont dites. Au sein même d'une religion, il y a beaucoup de divergences dans le christianisme. Et dans l'islam, celui que l'on adore, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Même les innovateurs dans la religion d'Allah et ceux qui font des innovations qui relèvent du shirk, ils ne disent pas « ce que je fais, c'est du shirk ». Ils disent « moi, je n'adore qu'Allah ». Subhanallah. Alors qu'en réalité, ce sont des mushrikoun. Ils disent « je n'adore qu'Allah ». Car ils savent qu'on ne peut dire que cette chose, que l'on adore qu'Allah. Et ça, c'est un mérite de cette religion. Le seul à être adoré dans cette religion, c'est Allah. La deuxième chose, c'est le mérite de cette religion sur ses adeptes. Où est-il? Le prophète, alayhi salatu wasalam, reçoit l'ordre de dire à ces gens qu'il appelle à l'islam, « Si vous doutez de ma religion, vous avez des ambiguïtés, shubuhat, des ambiguïtés dans la croyance, et vous faites tout pour me faire douter, moi. Mais sachez que dès lors que j'adhère à cette religion avec science, je suis inébranlable. » Vous ne pouvez pas m'égarer. فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Quant à moi, je n'adore pas ce que vous adorez en dehors d'Allah. Vous pouvez essayer avec vos ambiguïtés tout ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas changer ma conviction. Parce que cette conviction, cette foi, j'y ai adhéré avec clairvoyance. Car l'islam, c'est une religion de science, avec connaissance. Je sais qui est Allah. J'ai appris qui est Allah par ses noms, par ses attributs. Je connais le droit d'Allah sur ses serviteurs. J'ai vu les bienfaits d'Allah par lesquels il nous a gratifiés. Je connais le mérite qu'il a d'être adoré. Vous pourrez me dire tout ce que vous voulez. Je n'adore pas ce que vous adorez en dehors d'Allah. Mais j'adore Allah. Donc parmi les mérites de l'islam sur ses adeptes, c'est que quand la personne adhère à l'islam avec clairvoyance, elle est protégée des ambiguïtés, des égarements. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nas'alullah thabat 'ala al-Islam. Qu'Allah nous raffermisse sur l'islam. Le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah dit que quand Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset cité précédemment, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse dans ce verset aux croyants. Ici, qul ya ayyuhan nas dit « Oh les gens », il s'adresse aux polythéistes. Subhanahu wa ta'ala. Il s'adresse aux polythéistes et il ordonne à son messager sallallahu alayhi wa sallam de transmettre à ces gens le message suivant. Je n'adore pas ce que vous adorez en dehors d'Allah. Je n'adore qu'Allah seul. Puis, il dit « Alladhi yatawaffakum » celui qui vous fait mourir. Ibrahim, celui qui vous fait mourir, الذي يتوفاكم عند نهاية أجالكم وينقلكم من هذه الدار il a dar il jaza. Il vous fera mourir au moment de votre terme fixé, la mort. Et il vous fera déplacer de cette vie d'ici-bas vers la vie de l'au-delà pour voir votre rétribution. فَاللَّهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَ. C'est Allah qui mérite ainsi l'adoration. Pourquoi ? لِأَنَّهُ إِلَيْهِ الْمَرْدِعُ وَالْمَصِيرُ. Car c'est vers lui que s'effectuera notre retour. Puisque c'est vers lui que l'on reviendra tous, c'est lui qui mérite l'adoration. Et d'ailleurs, le fait d'avoir dit الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ, celui qui vous fera mourir, c'est une preuve claire que lui seul doit être adoré. Et lui seul est en droit d'être adoré. Car autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas capable de faire mourir, n'est pas capable de décréter la mort. N'est pas capable de décréter la mort et de décider de la mort. Voyez dans le Coran, avec le dialogue entre Ibrahim et le polythéiste qui lui dit, moi aussi je donne la vie et la mort. Il a ramené deux personnes, il en a tué une et laissé l'autre vivante. Là j'ai donné la mort et ici j'ai laissé la vie, j'ai donné la vie. Ibrahim alayhi salam lui a dit, Allah azza wa jal, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُوهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Allah amène le ciel, amène le soleil du levant. Fais-le venir du couchant, toi. Le mécréant fut alors abasourdi. Il ne peut rien faire. Allah Azza wa Jal est celui qui donne la vie, qui donne la mort. C'est donc lui qui mérite l'adoration. Subhanahu wa ta'ala. Et cela fait partie des choses étonnantes, nous dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, de voir ces idoles adorées en dehors d'Allah, alors qu'elles ne possèdent ni le fait de donner la vie, ni de donner la mort, ni de rétribuer quiconque parmi les gens. Elles ne possèdent aucune utilité, ni aucune nuisance pour les gens. Pour elles-mêmes, que dire alors pour quand il s'agit des autres? Cela fait partie des choses étonnantes. Allah Azza wa Jalla a dit, إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. En réalité, ils sont assujettis à la décision d'Allah, à la création d'Allah, au destin d'Allah, à la sagesse d'Allah, comme vous l'êtes. Ils sont serviteurs, vous l'êtes aussi. Fad'ouhum, invoquez-les donc. Falyastajibu lakum in kuntum sadiqin, et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques. Et dans l'autre verset, Allah Azza wa Jalla dit, in tad'ouhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Si vous les invoquez, ils ne pourraient entendre vos invocations. Et s'ils vous entendaient, ils ne pourraient vous répondre. Et le jour de la résurrection, ils mécroiront en votre polythéiste, c'est-à-dire quand vous les adoriez en dehors d'Allah. Ils se désavoueront de vous quand vous les adoriez en dehors d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, wa qawlihi ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu taqullah wa aminu bi rasulih. يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dans le sens du verset, ô vous qui avez eu la foi, faites preuve de piété envers Allah et ayez foi en son messager. Il vous donnera une double part de sa miséricorde et il vous assignera une lumière par laquelle vous marcherez. Ensuite, il vous pardonnera. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. Ici, nous dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, Allah Azza wa Jal s'adresse aux gens du livre qui adhèrent à l'islam. C'est-à-dire que, après avoir eu foi aux prophètes qui ont été les leurs, que sont Isa alayhi salam, Jésus, et Moussa alayhi salam, Moïse, ils ont accepté le message qui est venu par la suite, celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'ils acceptent, pardon, ce message, Allah tabaraka wa ta'ala leur accordera une double part de sa miséricorde. Ça, c'est le premier bienfait cité dans ce verset, le premier mérite dans ce verset, le fait que quand on adhère à cette religion, Allah nous accorde une double part de sa miséricorde. Mais où est citée la religion dans ce verset? Dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ittaqullaha wa aminu bi rasulih. Faites preuve de piété envers Allah et ayez foi en son messager. C'est comme une définition de l'islam. L'islam, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est d'être pieux envers Allah, de lui obéir et délaisser ses interdits, et de suivre son messager. La parole de l'islam, c'est « La ilaha illallah ». Nulle divinité ne mérite réellement l'adoration, excepté Allah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, si l'on adhère à l'islam, « Yu'tikum kiflaini min rahmati » Il vous donnera une double part de sa miséricorde. « Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi » Et une lumière par laquelle vous marcherez. « Wa yaghfir lakum » Il vous pardonnera vos péchés. « Wallahu ghafurur rahim » Une double part. Ashir Salih al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit « Ajrul imani bir rusulis sabiqin » وَأَجْرُ الْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Les gens adhérant à cette religion et ayant cru aux messagers précédents auront une récompense pour la foi qu'ils ont eue pour les messagers précédents et celle qu'ils ont eue pour Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Le croyant ainsi parmi les gens du livre aura une double récompense. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا Ceux-là recevront leur récompense deux fois en raison de leur endurance. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا Et il vous donnera une lumière. Cette lumière, c'est نور البصيرة, la lumière de la clairvoyance, nous dit le Cheikh Al-Fawzan, حَفِظَهُ اللَّهِ Et la clairvoyance, c'est la science de l'islam. Le musulman, quand il adhère à cette religion, quand il s'instruit dans cette religion, quand il augmente son savoir, le savoir qui est utile, qu'il va mettre en pratique, Allah tabaraka wa ta'ala va lui donner une lumière qui lui permettra de cheminer dans cette longue voie menant à Allah azza wa jal, semée d'embûches, dans cette voie qui souvent est très ténébreuse à cause du grand nombre de tentations, tant bien dans la croyance, shubuhat, que dans les désirs, les péchés, ash-shahawat. Allah Azza wa Jal nous dit, Allah waliyu alladhina amanu. Allah est l'allié de ceux qui ont eu la foi. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Les ténèbres du polythéisme, de la mécréance, de l'innovation, de l'incompréhension, des wasawis de shaitan, des insufflations de shaitan. Des insufflations de shaitan et des égarements de shaitan. Allah Azza wa Jal leur donne une lumière. Quand ils adhèrent à l'islam, à l'islam sahih, le vrai islam, puisé du Coran et de la sunna, compris correctement, cet islam-là, il te donne une lumière. Tamshuna bihi, par laquelle vous marcherez. Tumayizuna bihi, bain al-haqqi wal-batil, wal-huda wal-dalal, li-anna hadha dina nur, fal-Qur'anu nur, wal-sunnatu nur. Une lumière par laquelle vous distinguerez le vrai du faux. La guidée de l'égarement, nous dit le Cheikh Al-Fawzan. Car cette religion est une lumière, le Coran est une lumière, la Sunna est une lumière. Allah Azza wa Jalla a dit, Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum min rabbikum, wa anzalna ilaykum nuran mubina. Ô vous les gens, un argument vous est venu de la part de votre Seigneur. Et nous vous avons fait descendre une lumière éclatante. Celui qui circule et qui marche auprès des gens dans sa vie, avec la guidée du Coran, il marche avec une lumière, nous dit le Cheikh Al-Fawzan. Et celui qui marche avec autre que le Coran, il est comme celui qui marche dans les ténèbres. Wal'iyadhu billah. Même si on lui a enjolivé ses actions, ses paroles, qu'il a jugées bonnes, en réalité, elles sont caduques et il est dans l'égarement. Ainsi, la cause pour obtenir cette lumière promise par Allah Azza wa Jal, c'est de cheminer sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus de cela, wa yaghfir lakum, et il vous pardonnera. Subhanahu wa ta'ala. Allah nous encourage à l'islam. Et il encourage les gens du livre à revenir à la vérité qu'est l'islam. En leur disant qu'il leur donnera une double part de miséricorde. Une lumière avec laquelle ils vivront. Et en plus de cela, leurs péchés leur seront pardonnés. Quiconque suit une religion autre que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle ne sera pas l'islam. L'auteur a dit, « Wa fi sahih, an ibn Umara, radiyallahu anhuma, anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, a qal, mathalukum, wa mathalu ahli al-kitabayni, kamathali rajulin, ista'jara ujara, faqala, man ya'malu li min ghadwatin, إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضب اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte d'après Ibn Umar, qu'Allah l'agré lui et son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le hadith qui va suivre est une parabole, une comparaison que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les gens de l'islam et les gens du livre. C'est-à-dire les juifs et les chrétiens, en matière de récompense gagnée par Allah le jour dernier. Ou les gens du livre, on dira plutôt les gens du livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, votre exemple, comparé à l'exemple des gens des deux livres, les deux livres sont At-Tawratu ou Al-Injil, la Torah et l'Évangile. Deux livres qui ont été révélés par Allah Azza wa Jal, puis qui par la suite ont été falsifiés. Votre exemple comparé aux gens des deux livres ressemble à l'exemple d'un homme ayant employé des salariés. Ressemble à l'exemple d'un homme ayant employé ou alors engagé des salariés. Faqal, cet homme leur dit, qui parmi vous va travailler pour moi du matin jusqu'au milieu de la journée, c'est-à-dire à peu près midi, et je lui donnerai en échange un qirat. C'est une mesure de salaire qu'ils recevront en contrepartie de ce travail qu'ils feront. Les juifs ont pris ce travail et ont décidé de le faire. L'homme qui les a engagés a ensuite dit, qui parmi vous veut bien travailler pour moi de midi jusqu'au Asr, la prière du Asr, à peu près le temps du Asr, et je lui donnerai en contrepartie un qirat aussi. Les chrétiens ont travaillé, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme dit ensuite, qui parmi vous veut bien travailler pour moi du Asr jusqu'au coucher du soleil. Le temps est plus long, n'est-ce pas? Du Asar jusqu'au coucher du soleil, et je lui donnerai en échange 2 qirat, un double salaire. Et vous êtes cela, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, les juifs se sont alors mis en colère, les chrétiens aussi. Ils ont dit à celui qui les a employés, ça c'est une image, ils ont dit à celui qui les a employés, comment se fait-il que nous travaillons plus et notre salaire est inférieur? C'est-à-dire, ce que je voulais dire en fait, c'est pas plus long, c'est plus court le temps. Du Asar au Maghreb, c'est plus court que du lever du soleil à midi. Donc je reviens sur ce que je viens de dire, sur cette précision. Ils ont dit, comment se fait-il que nous travaillons plus alors que nous sommes moins récompensés? Celui qui les a employés leur a alors dit, ai-je été injuste envers vous? Ils répondirent, non, il n'a pas été injuste. Je vous ai proposé un travail, je vous ai fixé un temps, un salaire, vous l'avez accepté, vous l'avez fait en pleine connaissance de cause. Je suis l'employeur, je veux choisir le salaire que je donne. L'essentiel, c'est que je ne sois pas injuste envers vous. Est-ce que j'ai été injuste? Non, vous ne pouvez pas vous plaindre. Il leur dit, est-ce que j'ai été injuste envers vous? Ils répondirent non. L'employeur leur dit alors, c'est donc mon mérite, j'en fais don à qui je veux. C'est ma grâce, j'en fais don à qui je veux. Eh bien, c'est la même chose pour les gens de l'islam. Les gens de l'islam, en termes d'actions qui sont faites, font beaucoup moins que ce que devaient faire ceux qui ont reçu la révélation de la Torah et de l'Évangile. Ils devaient faire plus de choses et plus d'efforts. Vous connaissez l'histoire de Moussa alayhi salam, lors du voyage nocturne, quand Allah azzawajal lui a prescrit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 50 prières par jour. C'est ce que nous devions faire à la base, chers frères. Puis, en descendant, il rencontra Moussa alayhi salam qui l'interrogea. Le prophète alayhi salat wa salam informa Moussa alayhi salam que 50 prières ont été prescrites. Moussa alayhi salam a dit au prophète Mohammed alayhi salat wa salam, ta communauté ne le supportera pas. Ma communauté n'a pas supporté. Puis il n'a cessé de faire les allers-retours entre Moussa alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à réduire le nombre de prières à 5 physiquement, mais en les gardant à 50 en termes de salaire et de récompense. Cela prouve clairement qu'avant nous, ils avaient plus d'actions à faire que nous, et elles étaient parfois difficiles pour eux. Nous faisons moins qu'eux, et nous sommes plus récompensés qu'eux. Et ça, c'est la grâce d'Allah. Il en fait don à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Ce hadith nous montre ainsi le mérite de l'islam, nous dit le Sheikh Al-Fawzan. Hafidahullahu ta'ala, du fait que les adhérents à l'islam, les adeptes de l'islam, ont une récompense qui est beaucoup plus grande chez Allah que les gens des livres précédents. Et c'est une parabole que nous a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur rahimahullah dit, wa fihi aydan, an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a éloigné du vendredi ceux qui nous ont précédés. Les juifs avaient le jour du samedi, les chrétiens avaient le dimanche. Allah azza wa jal nous a guidés pour le jour du vendredi. Et ainsi, ces gens-là seront derrière nous le jour de la résurrection. Nous sommes certes les derniers à être arrivés dans cette vie d'ici-bas, mais nous serons les premiers le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah. Également, ce récit contient un mérite immense de l'islam. Il montre que les adeptes de l'islam sont la meilleure communauté. Comme Allah Azza wa Jalla a dit très clairement, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté sortie pour les gens. Vous êtes la meilleure communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que nous sommes la meilleure des communautés par le jour du vendredi. Allah subhanahu wa ta'ala avait donné un jour à chaque communauté. Les juifs ont choisi le jour du samedi. Les chrétiens ont choisi le jour du dimanche. Certains ont même été dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et la terre en 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé. Subhanahu wa ta'ala. Mais qui est-ce que vous adorez? Allahu Akbar. J'ai discuté une fois avec une personne de confession chrétienne dans un pays. Cette personne dit, Dieu s'est reposé le 7e jour. Je lui ai répondu, celui que vous adorez n'est pas Dieu, car Dieu est le Créateur. Le Créateur est puissant. La preuve, il a créé. Et s'il a créé avec autant de perfection, de beauté, cela implique que lui-même est parfait, est beau, puissant. Comment pourrait-il se reposer? Il ne convient pas à celui qui a créé les cieux et la terre d'éprouver une quelconque fatigue ou de se reposer. Cette personne me dit, alors, qu'a-t-il fait le 7e jour si vous dites qu'il ne s'est pas reposé? Alaykoum salam. Je lui ai répondu, il est plus savant. Parfois il nous informe de choses, d'autres fois il ne nous informe pas. L'essentiel c'est que l'on sache qu'il nous enseigne que chaque jour il fait quelque chose. Comme dans Sourate Ar-Rahman, Kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour il fait quelque chose. Subhanahu wa ta'ala. Cette personne me dit, vous voyez que vous êtes dans l'incapacité de répondre à la question, qu'a-t-il fait le 7e jour? Je lui ai alors dit, je vous pose moi aussi une question, qu'a-t-il fait le 8e jour? Cette personne m'a dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, c'est exactement la même chose que je suis en train de vous dire. Et l'affaire a été close, walillahi alhamd. Ahlu sunnah, Allah donne un peu de baraka quand même. On espère qu'il nous donne un peu de baraka parce qu'on essaie de défendre son tawhid dans la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ces gens-là ont choisi le samedi pour les juifs et le dimanche pour les chrétiens. Et ils ont dit qu'Allah s'est fatigué. Allah azza wa jalla a dit وَلَقَدْ خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ. Et nous avons créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux en 6 jours, sans qu'aucune fatigue ne nous touche. Nous, c'est lui qu'on adore. Et on revient donc au premier verset. فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. Je n'adore pas ce que vous adorez en dehors d'Allah, mais j'adore Allah, celui qui vous fait mourir. On adore Allah, celui qui ne s'est pas reposé. Subhanahu wa ta'ala. Allah a choisi pour les musulmans le jour du vendredi. Le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah nous dit, c'est le meilleur jour de la semaine. C'est le jour où il a complété la création. Subhanahu wa ta'ala. C'est le jour où Adam a été créé. C'est le jour où il a été sorti du paradis. C'est le jour de l'heure. Yawm al-Qiyamah, l'heure arrivera un vendredi. C'est un jour immense qu'Allah Azza wa Jalla a choisi pour en faire pour nous un jour de rappel. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jumu'ah fas'au ila dhikrillah. Ô vous qui avez eu la foi, quand on appelle à la prière le jour du vendredi, accourez au rappel d'Allah. à courir au appel d'Allah, délaisser le travail, délaisser le commerce, délaisser les échanges, délaisser les futilités, et dépêchez-vous d'aller au rappel d'Allah. Et ne croyez pas que parce que vous allez au rappel d'Allah, votre subsistance va diminuer, votre commerce ne va pas marcher. Allah Azza wa Jalla a dit « وَذَرُوا الْبَيْعِ » et délaissez le commerce pendant ce temps-là du Jumu'ah. L'imam Ibn Kathir rahimahullah dit que les savants disent que le commerce est haram, l'argent du commerce est haram pendant le jour du vendredi, pendant le jour du Salat al-Jumu'ah, la prière du vendredi. Et qu'est-ce qu'il dit après ? وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Cela est meilleur pour vous si seulement vous savez, vous saviez. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ. Et quand la prière est accomplie, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Propagez-vous sur la terre. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Et recherchez la grâce d'Allah. Donc Allah ne vous privera pas de sa grâce parce que vous allez prier la prière du vendredi. Ce jour-là a donc été choisi par Allah, subhanahu wa ta'ala, et Allah en a fait un mérite pour cette communauté. L'auteur, rahimahullah, dit, وَفِيهِ تَعْلِيقًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةِ. Également, Al-Bukhari rapporte, sans avoir cité la chaîne de narration, quand le savant du hadith rapporte un hadith dans son recueil sans citer la chaîne de narration, on dit que le hadith est rapporté rawahu ta'liqan ou mu'allaqan. Le hadith est mu'allaq, c'est-à-dire que la chaîne de transmission n'a pas été citée, ou alors un ou deux personnes ou trois ou plus n'ont pas été cités dans la chaîne de transmission, ce qui est le cas de ce hadith dont la chaîne de transmission a été cité par l'imam al-Bukhari lui-même, rahimahullah, dans un autre ouvrage intitulé Al-Adab al-Mufrad. L'essentiel, c'est que dans ce récit authentique, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ahabbu d-dini ilallah » la religion la plus aimée d'Allah, « Al-Hanifiyyatu al-Samha » c'est celle qui a ces deux caractéristiques. La première, elle est appelée « Al-Hanifiyya » la deuxième, « Al-Samha » Qu'est-ce que veut dire Al-Hanifiyya? Al-Hanifiyya tu samha, le Cheikh Salih Al-Fawzan dit, يعني millat Ibrahim, c'est-à-dire la voie d'Ibrahim, la religion d'Ibrahim. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela, rahimahullah? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa, wa lam yaku minal mushrikin. Certes, Ibrahim était un guide dévoué à Allah. Il était hanif. Et il ne faisait pas partie du nombre des polythéistes. Et celui qui est appelé Al-Hanif, c'est Al-Muqbilu ala Allah, celui qui avance vers Allah, Al-Mu'ridu amma siwa, et se détourne de tout autre que lui. On l'appelle en arabe Al-Hanif. Cette définition, c'est la définition donnée par l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et elle vient du mot al-hanf. Et al-hanf, c'est le penchant. Car celui qui va vers Allah, il a penché vers Allah. Et en penchant vers Allah, azza wa jal, il a délaissé derrière lui tout autre qu'Allah. Pour résumer, al-hanifiyya, c'est d'aller vers Allah et délaisser tout autre que lui. Subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure religion, la plus aimée d'Allah, c'est lorsque le serviteur va vers Allah dans son adoration, dans sa servitude pour Allah, et délaisse tout autre que lui, Azza wa Jal. Al-Hanifiyya, al-Samha. Al-Samha, ay al-Sahla. Al-Hanifiyya, al-Samha, c'est-à-dire la simple. La religion d'Allah, Azza wa Jal, est simple. Elle n'est pas difficile. Allah veut pour nous la simplicité. Il ne veut pas pour nous, subhanahu wa ta'ala, la difficulté, azza wa jal. Allah azza wa jal a dit, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ibrahim n'était pas juif ni chrétien, mais il était hanif, musulman. c'est-à-dire qu'il était musulman dévoué totalement et uniquement à Allah, il n'était pas du nombre des polythéistes. Allah l'a dit pour répondre aux gens du livre qui s'affiliaient à Ibrahim faussement. Ils disaient, Ibrahim est chrétien. Les autres disaient, Ibrahim est juif. Allah Azzawajal leur a répondu, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. D'ailleurs, Ibrahim, quand il est venu, il n'y avait ni la Torah ni l'Évangile. La Torah et l'Évangile ont été révélés bien longtemps après la mort d'Ibrahim alayhi salam. Comment pouvez-vous dire alors qu'Ibrahim était juif et chrétien alors qu'il n'a pas reçu ni la Torah ni l'Évangile? Et la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est celle d'Ibrahim qui consiste à n'adorer qu'Allah seul et se détourner totalement de tout autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est la meilleure et la plus aimée des religions chez Allah, subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite, « وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته فانظروا أعمالكم فإن كانت اجتهادا أو اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. أبي بن كعب كالله لغري un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cramponnez-vous à la voie et à la sunna. Car certes, il n'y a pas un serviteur qui soit dans la voie d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et la sunna, puis qui évoque le nom d'Allah, azza wa jal, tout en pleurant par crainte d'Allah, sans qu'il ne soit épargné du feu. Et il n'y a pas un serviteur qui soit dans la voie et dans la sunna qui évoque le tout miséricordieux et qui voit sa peau frémir par crainte d'Allah Azza wa Jal sans qu'il ne soit à l'image d'un arbre dont les feuilles sèches sont tombées. De la même manière, ses péchés tombent de lui. Subhanallah. De la même manière, ses péchés tombent de lui et il se voit déchargé de ses péchés comme l'arbre est déchargé de ses feuilles sèches qui tombent. Et être économe dans la sunna est bien meilleur que fournir beaucoup d'efforts dans la contradiction de la voie et dans la sunna. Regardez bien vos actions alors, jusqu'à la fin du récit. En quoi est-ce que ce récit a un rapport avec le mérite de l'islam? La réponse, le rapport entre ce récit et le mérite de l'islam, c'est ce qui va suivre. Remarquez bien que le sahabi Ubay radiallahu anhu a dit qu'il n'y a pas un serviteur qui soit dans la voie qui est l'islam, et dans la sunna qui est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qui évoque le nom d'Allah, et qui craint Allah azza wa jal, sans qu'il ne soit épargné du feu, et que ses péchés ne tombent de lui comme les feuilles sèches tombent d'un arbre. La condition pour avoir ce mérite, qui est d'être épargné du feu, et de voir ses péchés déchargés de la personne, à l'image des feuilles sèches qui tombent de l'arbre, est d'être d'abord dans la voie et dans la sunna. Car, pleurer, évoquer le nom d'Allah, Azza wa Jal, ne va pas être utile pour la personne dès lors que cette dernière n'est pas dans la croyance correcte, n'est pas dans la voie correcte. Si elle est dans l'innovation, ça ne lui servira à rien de pleurer. Ça ne lui servira à rien de passer toute sa journée à évoquer le nom d'Allah, car elle n'est pas dans la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si elle n'est pas dans la voie d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ça ne lui servira à rien. Ainsi, le compagnon dit, vous voulez être épargné du feu? Vous voulez que vos péchés vous soient déchargés à l'image des feuilles sèches qui tombent de l'arbre les unes après les autres, aussi rapidement? Alors cramponnez-vous à la voie et cramponnez-vous à la sunna. Puis il dit, car l'économie dans la sunna est meilleure que les efforts dans l'innovation. Il y a des gens qui, depuis tant d'années, font beaucoup d'efforts. Ils vont jusqu'à s'épuiser, se fatiguer, n'est-ce pas? Ils veulent se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais pourtant, ils sont dans l'erreur. Car ils n'ont pas appris, ils ne se sont pas instruits. Ils ne sont pas sûrs avec clairvoyance et avec science que ce qu'ils font est ce qu'Allah veut, subhanahu wa ta'ala. Mais des fois, ils le font parce qu'ils suivent ce qu'ils ont vu d'autres personnes faire, ou alors parce qu'ils ont été induits en erreur par des gens qui sont aussi ignorants qu'eux, voire plus, ou d'autres choses encore. Eh bien, ils se sont fatigués, mais inutilement, car les actions ne sont acceptées d'Allah tabaraka wa ta'ala que si la personne suit la voie d'Allah azza wa jal et l'islam authentique. Donc, parmi les mérites de l'islam, celui qui agit avec l'islam, ses péchés lui sont pardonnés. Et même s'il fait peu, il est économe dans la sunna, c'est-à-dire qu'il fait peu, mais il suit la sunna. C'est meilleur que celui qui fait beaucoup tout en innovant dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne veut pas là encourager les gens à faire peu. On veut encourager les gens à suivre la sunna. Puis s'ils font plus, c'est encore meilleur. C'est ça qui est voulu. Enfin, l'auteur, rahimahullah, dit pour conclure ce chapitre, وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يعيبون سهر الحمقى وصومهم مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين سبحان الله أبو الدرداء رضي الله عنه qui est un alim dans le Coran, a dit la parole suivante. Je vais vous la traduire de manière approximative. Il dit, « Oh, combien j'envie le sommeil et l'action de manger des gens doués de raison. » De qui il parle ici? Il parle des gens de la sunna, des gens qui suivent l'islam authentique et qui ne font peut-être pas de grands efforts. Si bien qu'ils dorment, ils ne prient pas. Ils mangent, ils ne jeûnent pas. Mais je les envie, nous dit Abu Darda. Pourquoi il les envie? Parce qu'ils sont sur la bonne croyance. Et même s'ils ne prient pas la nuit et ne jeûnent pas le jour, du fait qu'ils soient sur la bonne croyance, ils seront grandement récompensés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment pourrait-il envier ou jalouser la veillée des gens faibles d'esprit et leurs jeunes, ceux qui ont contredit la sunna? Ils font plus que les autres en termes d'action apparente. Ils jeûnent tous les jours, ils prient les nuits comme Al-Khawarij. Les Khawarij sont des gens qui prient la nuit, qui jeûnent le jour. Ils font beaucoup d'actions, mais elles ne sont pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, car ils sont mauvais, car ils sont égarés. Elles ne sont pas acceptées. Et tu peux trouver des gens de la sunna qui n'en font pas autant d'efforts qu'eux, physiquement, mais du fait qu'ils ont la bonne croyance, ils sont meilleurs que les autres chez Allah. Oh, combien j'envie ceux qui dorment et qui mangent parmi les doués de raison, nous dit Abu Darda, radiyallahu anhu. Comment pourrait-il jalouser la veillée en prière et le jeûne des faibles d'esprit? Certes, min birnam, un atome ou un grain de moutarde ou une fourmi ou peu importe, une fourmi de bien avec la taqwa qui consiste à suivre les ordres d'Allah Azza wa Jal et d'être conforme à la voie d'Allah Azza wa Jal, est meilleur et plus grand chez Allah que l'adoration des gens trompés. L'adoration des gens trompés. Ils font des adorations, ils font des efforts physiquement, certes, mais ils sont trompés parce qu'ils sont dans l'innovation. Ils ne sont pas dans la bonne croyance. ni dans l'action qu'Allah Azza wa Jal leur a prescrit. Le Cheikh Salih Al-Fawzan dit: Atharu Abi Darda yushbihu athara Ubay ibn Ka'b fi ma'nahu tamaman. Le récit de Abu Darda ressemble totalement au récit suivant de précédent de Ubay ibn Ka'b. Anna sahib al-aqidati as-sahiha wa in kana na'iman fahuwa khayrun min sahib al-aqidati al-fasida wa in kana qa'iman yusalli an-nafila. Car celui qui a la croyance saine et authentique, même s'il dort la nuit, est bien meilleur que celui qui a une croyance corrompue, même s'il prie la nuit. Et celui qui suit la sunna dans son sommeil et dans son repas, il est dans un grand bien. Et l'innovateur dans sa veillée en prière et dans les jours qu'il passe à jeûner, il est dans le mal. Car il chemine sur une voie qui n'est pas la guidée de l'islam. Allahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.